Qu'on va commencer, on s'est arrêté à la page 24 à 2, au début de la page. Chen Aya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Vous avez Chen Aya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, c'est dans la colonne de gauche.
Vechen.
D'accord. Donc on continue. On a commencé la semaine dernière à amener une braïta. Une braïta dans laquelle on a dit que bien que Rabbi Shimon ben Elazar avait dit dans la Mishnah que tous les ustensiles qui étaient Anporia, c'est-à-dire tous les ustensiles nouveaux, que la personne n'a pas eu le temps de s'habituer, on n'a pas l'obligation de proclamer, même s'il y a un siman, puisqu'on estime que la personne n'a pas eu le temps de s'habituer à l'objet. Mais on a dit néanmoins, si c'est un type d'objet que la personne s'habitue tout de suite, par exemple, on avait donné l'exemple d'un beau tableau, d'accord, d'un beau tableau que la personne, dès le premier coup, avec le premier coup d'œil, elle s'est déjà habituée, elle a déjà remarqué un siman particulier. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce cas-là? Dans ce cas-là, même si l'ustensile est nouveau, même si le tableau est nouveau, on considère que Chayav Léachid, il y a une obligation de proclamer. Donc la Gemara a continué, nous amène toujours la même braïta.
Et là, moi, j'étais avant, parce que j'avais l'histoire des pièces dans une synagogue, on n'en a pas parlé la semaine dernière.
Bien sûr. Où c'est? Quelle pièce dans une synagogue?
On allait voir notre...
La Gemara vient apprend celui qui trouve des pièces.
Voilà, on est là. Oui, justement, on est là, bah, c'est ici.
C'est la suite.
C'est la suite, c'est comme ça. V'chenaya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Continue, on dit, ainsi Rabbi Shimon ben Elazar dit, Amatil Minahari, un cas intéressant, une personne qui sauve quelque chose, Minahari du Minahari, d'accord, Minahari, c'est-à-dire du lion, ou Minadov et de l'ours, ça, imagine-vous, il y a un lion qui vient, qui attrape quelque chose. Maintenant, moi, le lion, il l'a attrapé, j'ai abandonné. Et après, il y a un professionnel qui vient, qui arrive avec un coup comme ça, il arrive à te prendre l'objet du lion.
D'accord ?
Très bien. C'est un cas qui peut arriver, vous allez voir comment c'est un cas qui peut nous arriver. Et qu'est-ce qui se passe ? Il a pris l'objet, et moi je vois qu'il a réussi à prendre l'objet, je dis bon, bah, très bien, t'as réussi à le prendre, t'as la cavote, t'as fait une mitzvah, rends-le-moi. Et l'autre il dit, ah non, toi tu l'avais abandonné ton objet. Moi je l'ai pris, il est pour moi. Premier exemple. Ou Minadov, ou vient de l'ours, ou Minanamer, d'accord ? Il y en a mère, c'est-à-dire de la panthère. Ou Mina Bardelas. Bardelas, on n'a pas, je ne sais pas si tu donnes la traduction ici.
Yen.
Pardon ?
Inienne.
Inienne ?
Yen, une hyène.
Yen, d'accord. Bon. Rachid explique que donc c'est un animal sauvage, d'accord ? C'est un animal sauvage que, pareil aussi, les hommes ont très peur de cet animal. Oumin Zuto Sheliam. Bon, ça, c'est des exemples qui étaient pas très qui sont pas très fréquents à notre époque, mais on va voir un exemple n'importe où.
Non, mais Oumin, des lions, des hyènes et des léopards, ils étaient où ?
Eh ben, ils étaient dans la forêt, par exemple.
Non, mais il y avait des lions, des hyènes, des
ou min zuto shaliam, ou bien min zuto shaliam, si je fais tomber un objet au fond, je fais tomber un objet au fin fond de la mer, alors on est en bateau, je fais tomber un objet, je fais tomber un beau diamant, et moi, dans ma tête, je l'oublie, et chut, il y a un professionnel qui plonge et qui me récupère l'objet. Je dis, ah ben, très bien, quand la cavotte, grande mitzvah, rends-le-moi. Non, je l'ai abandonné, il est pour moi. Ou mishlulito shalnar, ou bien, si c'est la même chose, si c'est pas dans la mer, mais c'est dans un fleuve, mais pareil, dans un fleuve, au fond du fleuve, que personne ne compte le chercher. Shlulito, ça veut dire, vous savez, au fond des fleuves, en général, le sol est mouvant, d'accord ? Est vaseux. Puisque le sol est vaseux, d'accord, il y a du sable mouvant, donc personne descend, on a peur. Il y a un professionnel qui est descendu et qui est parti chercher l'objet. Qu'est-ce qu'on te dit dans tous ces cas ? Vechen amotse bistratia ou flatia. Pareil. Et là, on va arriver au cas de la synagogue. Si je trouve un objet, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans tous les cas que je viens de dire, d'accord ? Déjà, avant de dire Stratia et Flatia, dans tous les cas que je viens de dire, si je sauve quelque chose du lion, du loup, bien au fond de la mer, etc., et qu'après le propriétaire initial revendique son objet, quelle est la halakha ? La halakha est que le propriétaire initial ne reprend pas son objet, même si l'objet est un siman, même s'il y a les initiales sur l'objet, même si la montre Rolex est numérotée. Il n'y a pas. Toi, dans ta tête, elle est tombée, tu l'as abandonnée. S'il y a un professionnel qui est parti, qui l'a cherché, tu ne l'as pas envoyé toi, le professionnel. Il est parti de lui-même. C'est bien beau, une fois que l'objet a été récupéré, de dire oui, ben je le voudrais. Il n'y a pas, c'est trop tard. C'est fini, la personne peut garder l'objet. D'accord ? Même s'il y a un siman. Ah oui, c'est logique.
Il a vu tomber ses propres objets de la personne.
Oui, ça ne change pas. Si la personne, quand il voit le professionnel, elle dit non, n'y va pas, j'envoie un professionnel. Là, dans ce cas-là, il a montré qu'il n'a pas abandonné son objet. Mais si la personne a dit « Ah, mince, c'est tombé, bon, allez, tant pis. » Et après, t'as discrètement, t'en as un qui plonge, D'accord ? Ils sont en croisière et t'en as un qui plonge, qui va, il ramène l'objet. Il ramène vos gosses comme ça, il ramène l'objet. Eh ben, c'est pour lui. D'accord ?
Beau gosse, mais pas beau.
Donc on dit comme ça. Il est... ah, attention, s'il veut faire une mitzvah, Laurent, tant mieux. D'accord ? Mais il n'a pas l'obligation, on peut le garder pour lui. On continue. Amotse Bistratia. Une personne qui trouve Bistratia, ça veut dire dans le chemin qu'il y a d'une ville à une autre ville. Aujourd'hui, on aurait dit l'autoroute ou la nationale. D'accord ? C'est-à-dire le chemin d'une ville à une autre ville. Ou Flatia. Ou bien, d'accord ? C'est quoi Flatia ? Flatia, ça veut dire une grande place. Flatia Gdola. Une grande place que la place du marché, comme Rashi explique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous avez déjà été au marché. C'est une grande place et il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de va-et-vient. Beaucoup plus que d'habitude. Encore plus que les Champs-Élysées. C'est très serré, il y a du monde qui vient, qui passe, etc.
On marchait là-dessus ?
Oui. D'accord. Rashi explique en Palestine. Alors, Tachana Merkazit, comme en Israël, c'est-à-dire c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de va-et-vient, mais énormément de va-et-vient. Uvechol makom sha'arabi metsuim sham. Ainsi que dans tout endroit que Rabbi Metsuim Sham, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui passe. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Are elu shelo. Même s'il y a un siman, l'objet lui appartient. Pourquoi ? Mifne sha'be'ali mitiashin me'en. Parce qu'on considère que le propriétaire initial a statistiquement, certainement, abandonné son objet. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on nous dit la vérité. Maintenant, on va poser des questions sur ce qu'on vient de dire.
Même s'il y a un...
On va poser 5 questions.
Même s'il y a le nom et l'adresse,
oui.
Et qu'il le trouve dans ces conditions-là...
Justement, on va analyser. D'accord ? Pour l'instant, a priori, ce qu'on dit ici, c'est que, a priori, de perdre quelque chose sur la place du marché, c'est comme si je l'ai perdu dans la bouche d'un loup. C'est la même chose.
Mais il y a un siman ou pas ?
Même s'il y a un siman. Alors, on va analyser, justement. On va poser la question. On va expliquer tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on estime, a priori, c'est ce qu'on vient de dire. La Braïta vient de dire qu'on estime que la personne, quand il perd quelque chose sur la place du marché, il l'oublie. Même s'il y a un siman.
Non, sauf s'il y a un siman, parce que la personne, elle se dit...
Non, attendez. On a pas dit, là, on a dit que même s'il y a un siman, c'est même s'il y a un siman, d'accord, tu peux garder, la personne qui trouve peut garder. Alors, pourquoi ? Justement.
Pour répondre que la personne...
On va voir.
Je vais vous dire. Quand elle a un siman... Elle se dit pas, je m'abandonne.
Très bien, alors on va voir. La Gemara n'a pas dit ça maintenant. La Gemara a dit que dans tout endroit qui a une forte affluence, mais une page Champs-Élysées, une très forte affluence, d'accord, c'est-à-dire comme la place du marché, même s'il y a un siman, on considère que le propriétaire a abandonné. Alors on va analyser, parce qu'on se dit, mais attends, peut-être le propriétaire, s'il y a un siman, il compte le retrouver. Donc on va voir ça tout de suite. Ibayalou, la Gemara va poser une question. La Gemara va poser 5 questions sur ce qu'on vient de dire. Première question. La première question qu'ils ont eue au Beit HaMidrash, sur la dernière sentence qu'on vient de dire. Tikama Rabbi Shimon ben Elazar. Quand Rabbi Shimon ben Elazar a dit que... Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Elazar ? Rabbi Shimon ben Elazar a dit que si on trouve un objet dans un endroit dans lequel il y a une très forte affluence, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Même s'il y a un siman, arrêlouchez-le, l'objet t'appartient. Première question qu'on pose. Est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé simplement d'un cas Berov Knanim, quand la majorité des passants de l'endroit sont des Cananéens, ça veut dire sont des non-juifs. Donc puisqu'ils sont des non-juifs, on considère, comme je vais expliquer tout de suite, que certainement l'objet est tombé d'un Cananéen. Et il faut savoir que quand la mitzvah de Hashavat Aveda est seulement pour un juif, ça veut dire qu'un objet qui tombe d'un Cananéen, j'ai pas la mitzvah de lui rendre, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, écoutez bien les deux détails que je vais dire, c'est important, c'est Tosfot qui explique comme ça. Deux détails. Il dit... Est-ce qu'on va dire que ce que Rabbi Shimon ben Elazar a dit, c'est seulement quand il y a une sur la place du marché, la place du marché est fréquentée par une majorité de goyim. Qu'est-ce que ça change si elle est fréquentée par une majorité de goyim? Deux choses. Premièrement, que statistiquement, certainement l'objet a été perdu par un goy. Puisque l'objet a été perdu par un goy, il n'y a pas de mitzvah de la Shavat Aveda pour un goy. C'est premièrement. Deuxièmement, même si l'objet a été perdu par un juif, certainement que ce juif-là a abandonné son objet. Pourquoi il abandonne son objet ? Parce qu'il se dit, certainement, statistiquement, la personne qui va le retrouver, il sera un goy, et un goy ne va jamais me le rendre. Vous me suivez ? Deux détails. C'est tout ce qui explique comme ça. Donc, est-ce qu'on va dire que ce que Rabbi Shimon ben Elazar a dit, que quand on trouve dans un endroit dans lequel il y a une très forte affluence, Rabbi Shimon ben Elazar parle dans un endroit dans lequel... Il y a une majorité de goyim, et que c'est pour ça que tu peux le garder. Mais si ce serait un endroit dans lequel un marché en Israël, dans lequel il y a une majorité de juifs, là dans ce cas-là, non. Mais s'il y a un siman, il faut le rendre. D'accord ? Il faut proclamer. Ou bien, Odilma, ou bien on va dire, Aval, Berov, Israël, est-ce qu'on va dire que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé uniquement dans un cas dans lequel la majorité des passants du marché sont des non-juifs? Mais si la majorité des passants sont des juifs, Rabbi Shimon ben Elazar n'a pas dit. C'est-à-dire qu'il faudrait proclamer. Ou bien on va dire, Odilma, ou bien on va dire, Afilou, Berov, Israël, Nami, Amar. Où on va dire que Rabbi Shimon ben Elazar, quand il a dit que dans un endroit dans lequel il y a une très forte affluence, on peut garder l'objet et on n'a pas l'obligation de proclamer, il parle même dans un endroit dans lequel la majorité des gens, des passants, même si sur la place du marché, la majorité des passants sont des juifs. Pourquoi? Et pourquoi on pourrait le prendre? Parce que là, et c'est là qu'on va arriver au concept de la synagogue, qu'on va voir un petit peu plus loin, d'accord? Que même si la majorité des personnes qui passent sont des juifs, on va donner un exemple, le Kotel à Maharavi. D'accord? Le Kotel à Maharavi, voilà. Imaginez-vous que vous perdez quelque chose au Kotel à Maharavi. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Kotel. Au Kotel, il y a une très forte affluence. On va dire, voilà, le Kotel, la veille de le jour de Shavuot, une très forte affluence. Il y a du monde qui vient, qui part, etc. La majorité des gens qui viennent, l'écrasante majorité, sont des juifs. On va dire. D'accord? Bon. A priori. Mais quand quelqu'un perd quelque chose là-bas, est-ce qu'il compte le retrouver? Non. Il ne compte pas le retrouver. Bien que théoriquement,
il devrait le retrouver,
puisque c'est des juifs et il devrait le rendre. Il compte pas le retrouver. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que, même s'il y a des religieux, il sait que il y a des gens qui sont pas religieux et qui vont passer, il y a des gens qui sont pas corrects, et qu'il y a des gens qui vont le prendre sans proclamer. Donc, la question qui s'est posée au Beit HaMidrash, c'est comme ça. Rabbi Shimon ben Elazar nous a appris quelque chose de nouveau. Il nous a appris que perdre quelque chose dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence, c'est considéré comme si tu l'as perdu dans la bouche d'un loup. C'est la même chose. Ça veut dire que dans ta tête, il est perdu et c'est fini, tu ne comptes pas le retrouver. La question qu'on a, c'est que Rabbi Shimon ben Elazar n'a pas spécifié est-ce qu'il parlait dans un endroit dans lequel il y avait des goïms ou est-ce qu'il parlait aussi dans un endroit dans lequel il y avait des juifs. On a expliqué pourquoi c'est pas la même chose. D'un côté, on peut dire que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé uniquement dans un endroit dans lequel il y a des goïms. Et que dans ce cas-là, on dirait que pourquoi il dirait que dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence, j'ai pas l'obligation de le rendre. Parce que statistiquement, certainement que c'était perdu par un goy. Donc si c'était perdu par un goy, j'ai pas l'obligation de le rendre. Même si ça a été perdu par un juif, qu'est-ce qu'on a dit? Le juif va l'abandonner parce qu'il va dire de toutes les façons, certainement que celui qui va le retrouver sera un goy. Ça c'est première hypothèse. Ou bien deuxième hypothèse, on va dire que non. Rabbi Shimon ben Elazar parle même dans un cas qu'il y a des juifs. Pourquoi je l'abandonnerai? C'est là que je vous ai donné l'exemple du côté à la Maharavi. Que même si c'est un endroit dans lequel il y a que des juifs, comme il y a une très forte affluence, malheureusement, statistiquement, il y a toujours des gens pas bien. Donc, quand je perds un objet au côté à la Maharavi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence, vous ne comptez pas le retrouver. Pour vous, c'est comme si il est tombé dans la mer. Ah, bonne question. Alors, ce qui va changer, d'accord, ce qui va changer, c'est que, on va voir ça juste après. D'accord. Ce qui va changer, c'est dans le cas où il y a des juifs. Parce que dans une synagogue, par exemple, dans la synagogue, la majorité des gens qui viennent au Minyan sont des gens bien. Donc là, dans ce cas-là, il y a moins de... J'ai pas de raison de dire qu'il y a des gens pas bien. Mais quand c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, on dit que statistiquement, il y a des gens pas bien qui passent. Tu comprends? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence. Ça vous est déjà arrivé?
Une faible affluence, ça va changer quoi?
C'est qu'une faible affluence, ça va changer que si je sais que c'est un endroit dans lequel il n'y a que des juifs, et que c'est des juifs religieux qui viennent au Minyan, je me dis que certainement, moi je n'abandonne pas l'objet. En vérité, on essaie d'analyser ce qui se passe dans la tête de celui qui a perdu l'objet.
Mais faible affluence dans les mêmes conditions que la forte affluence.
Ah oui, effectivement. Ah oui, dans ce cas-là, si je sais que je perds mon objet dans une synagogue dans laquelle la moitié des gens sont...
Pas dans une synagogue. Là, vous parlez d'une synagogue. Il y a beaucoup de monde, mais même si c'est dans
l'histoire... Si je le perds au sentier, par exemple. Si je le perds au sentier. Oh, je sais pas, peut-être les Chinois qui peuvent le voler.
Là, on parle de monde, on parle pas de forcément de juifs.
Oui.
Vous dites une grande affluence dans une place où il y a beaucoup de monde.
Uh-huh.
Et que ce soit dans la route pour l'enfer où il n'y a pas beaucoup de monde. Et on n'a pas affaire à des juifs en plus.
Ah, justement, j'ai compris
pourquoi
votre question.
La différence, en fait,
la différence qu'il y a, c'est que quand il n'y a pas beaucoup de personnes, moi je compte le retrouver. C'est-à-dire, je me dis, peut-être je vais repasser, je vais le retrouver. Donc, je n'ai pas abandonné mon objet. Donc, tant que je n'ai pas abandonné mon objet, la personne ne peut pas le prendre.
Mais vraiment dans la tête de la personne qui a perdu
oui.
L'objet. Pas dans les personnes qui va retrouver l'objet.
Il faut se mettre dans la tête de la personne qui a perdu l'objet, exactement. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La Gemara, elle dit comme ça. Donc, première question que la Gemara pose, c'est quand Rabbi Shimon ben Elazar a parlé, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé dans un cas dans lequel la majorité des passants sont des non-juifs, ou est-ce qu'il a parlé dans un cas dans lequel la majorité des passants sont des juifs? On a expliqué comment on pouvait expliquer des deux côtés. On verra après la réponse à la question. Avant de passer à la réponse à la question, on va poser encore d'autres questions.
Donc il n'aura pas fait une différence entre les juifs et les non-juifs?
Oui. Si on dit que c'est même dans un endroit dans lequel il y a des juifs, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs. Bah oui. Le juif est toujours mieux. Ou bien, deuxième cas. Im Tzeloma. Deuxième question avec Mara pose. Si tu vas me dire que, si tu arriveras à me prouver que Afilou Berov Israël Nami Amar, disons que tu vas réussir à me prouver, peut-être, d'accord, dans la suite de la Gemara, tu vas réussir à me prouver que, on n'a pas encore donné la réponse, mais on essaie de réfléchir. Disons que tu vas réussir à me prouver que, même qu'en vérité, Rabbi Shimon ben Elazar a parlé, même dans un endroit dans lequel la majorité des passants sont des juifs. Et que même si la majorité des passants sont des juifs, perdre un objet dans une place du marché ou au côté à la Maharavi, c'est considéré comme si tu l'avais perdu dans la bouche d'un loup. Très bien. Alors j'ai une autre question à te poser. Même si tu réponds à cette question, j'ai une autre question. C'est quoi la question? Est-ce que, on va dire, la question qu'on va se poser comme ça, la question qu'on va se poser, c'est plig et Rabbanan. Allez, tu m'as dit que Rabbi Shimon ben Elazar dit ça, très bien. Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec lui? Est-ce que plié Rabbanan Ale, est-ce que Chachamim sont en marloquette sur lui? Olo, plié, ou bien ils ne sont pas en marloquette sur lui? Parce que vous vous rappelez dans la Mishnah qu'on avait étudié, on avait toute une série de halachot, car on a dit Elu Metziot Shelo, voici ce qu'il trouve, donc on avait donné l'exemple, celui qui trouve des gerbes de blé, etc. Et après on a vu Rabbi Shimon ben Elazar. Donc même si tu veux me dire que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé, même dans un cas dans lequel la majorité des gens qui étaient passants sont des juifs. Mais j'ai une autre question à te poser. C'est quoi l'autre question? L'autre question c'est, est-ce que Chachamim sont d'accord avec lui, ou Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Alors, donc ça c'est une question technique, qu'on va devoir essayer de prouver par d'autres Mishnayot, est-ce que les Chachamim sont d'accord, ou les Chachamim ne sont pas d'accord. Ve'im titzelomar pligé. Troisièmement, et même si tu vas me dire, que les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, j'ai une troisième question à te poser, si vous suivez. Donc, première question, on a dit, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé dans un cas dans lequel la forte affluence était de juifs ou de non-juifs? Même si tu vas me dire que c'est une forte influence de juifs, est-ce que Chachamim sont d'accord avec lui ou Chachamim ne sont pas d'accord avec lui? Même si tu vas me dire que, troisième question, même si tu vas me dire que Chachamim sont en marloquette avec lui, donc ils ne sont pas d'accord avec lui, j'ai une autre question à te poser. Dans quoi ils sont en marloquette, Chachamim? Berov Israël Vadaï plié. D'accord? Donc, effectivement, c'est sûr que Chachamim, ils seront en marloquette avec lui, parce que, donc il faut bien, peut-être que le tableau nous aurait aidé dans ce cas-là. Bon, je vous montrerai après au tableau. D'accord? Je n'ai pas les feux de sur moi. On a dit que, regardez, je vais faire avec ma main. On a dit, premier doute, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé dans un cas dans lequel il y a une majorité de juifs, ma main droite, ou de non-juifs? Même si tu vas me dire qu'il a parlé dans un cas dans lequel il y a une majorité de juifs, est-ce que Chachamim sont en marloquette avec lui, ou ils sont pas en marloquette? Même si tu vas me dire que Chachamim sont en marloquette avec lui, ils sont en marloquette que sur le cas dans lequel il y a une majorité de juifs. Mais est-ce qu'ils sont en marloquette aussi dans le cas dans lequel il y a une majorité de non-juifs? Ça, on ne sait pas. D'accord? Donc, Vim Tzelomar, donc, Berov Knanim plié, Olo plié. Est-ce qu'ils sont en marloquette aussi, dans le cas de ma main gauche, d'accord? Quand il y a une majorité de Cananéens ou pas? Vim Tzelomar plié. D'accord? Même si on veut dire qu'ils sont en marloquette sur ça aussi. Bon. Alors, Afilou Berov Knanim, Alacha Kemoto ou Analacha Kemoto? Est-ce que là, l'Alacha sera comme Rabbi Shimon ben Elazar, ou l'Alacha ne sera pas comme Rabbi Shimon ben Elazar? En d'autres termes, on ne sait pas. Même si on veut dire que Rabbi Shimon ben Elazar a dit une chose, il a dit une chose sur les deux cas, et Chachamim ne sont pas d'accord avec lui dans aucun des deux cas, ni majorité de non-juifs, ni majorité de juifs. Très bien. J'ai une autre question à te poser. Est-ce que l'Alacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar ou pas? On a un principe que le Rajva explique. On a un principe de manière générale qui dit que quand on a une marloquette entre une personne et une majorité de Chachamim, l'Alacha est comme qui? L'Alacha est toujours comme la majorité.
Ouais.
Alors pourquoi la Gemara se pose la question ici, est-ce que l'Alacha serait comme Rabbi Shimon ben Elazar? Alors le Rajba explique que ici, même que de manière générale on dit que l'Alacha est comme la majorité, ici on aurait une raison de dire que l'Alacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, parce que Rabbi Shimon ben Elazar a avancé un argument qui est très fort. Il a avancé des arguments pour expliquer ce qu'il a dit. Donc, puisqu'il a avancé des arguments, dans ce cas-là on n'applique pas le principe que l'Alacha est comme la majorité. Si la personne qui est seule a amené un argument qui est très fort, dans ce cas-là, on doit analyser, c'est pas si simple que ça. Donc c'est pour ça qu'Akmara pose la question. Donc là, on en a à quelle étape? On a posé combien de questions pour l'instant?
4.
Combien de questions on a posé? 3 ou 4? Yaakov, combien de questions on a posé?
J'en ai 3, et il doit y avoir un quatrième.
Je répète. Première. Alors je recommence avec ma main droite, ma main gauche.
Il y a quatre talents.
D'accord. Premièrement, est-ce que c'est non juif, d'accord, ou est-ce que c'est juif, ou est-ce que c'est juif aussi, d'accord. Ensuite, deuxième question qu'on a posée. Si c'est des juifs, disons que si c'est aussi des juifs, est-ce que Khamim sont marloquettes ou ils sont pas marloquettes? D'accord.
C'est pas des juifs, c'est pas des juifs.
Non, ça fait très bien. Non, deux secondes. Est-ce qu'ils sont Khamim sans marloquettes ou sont pas marloquettes? Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, même si tu veux dire qu'ils sont marloquettes sur ça. La majorité de juifs. Est-ce qu'ils sont en marloquette aussi dans lequel, ma main gauche, une majorité de non-juifs. D'accord? Une majorité de non-juifs, oui.
Trois.
Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement. Même si tu vas me dire que, même sans marloquette sur les deux cas. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar ou la halakha est comme Chachamim? Très bien. Et j'ai un cinquième. D'accord? Cinquième et dernier. Im titselomar halakha kemoto. Et si tu vas me dire que la halakha est comme lui, est-ce que c'est Dafka Berov Knanim? Ou bien, à Filou Berov Israël. Si tu veux me dire que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar dans quel cas? Dans le cas de ma main droite, dans le cas de ma main gauche, ou dans les deux? Dans le cas qu'il y a une majorité de juifs, dans le cas qu'il y a une majorité de non-juifs, ou dans les deux cas? Donc en d'autres termes, on
sait pas.
On sait pas quoi, hein.
On sait même pas ce qu'il pense, Rabbi Shimon ben Elazar.
Si, il l'a dit.
Non?
Il l'a dit.
Puisqu'on pose la question, est-ce qu'il veut dire?
Oui, mais le problème, c'est que Rabbi Shimon ben Elazar a dit qu'une phrase, c'est tout. Il a dit, celui qui se trouve dans une grande place. C'est tout. Il s'est arrêté là. Ni on sait de quelle grande place il parle, est-ce qu'il y a des non-juifs, est-ce qu'il y a des juifs, ni on sait est-ce que Rachamim sont d'accord avec lui, ni on sait est-ce que la halakha est comme lui, est-ce que la halakha est comme lui dans un cas ou dans deux cas, on sait pas.
Donc on sait pas ce qu'il pense réellement.
Oui, c'est la question de l'Agmara. Ouais. Alors l'Agmara a dit, Tashma, viens écoute. On va essayer de répondre à cette question. On va essayer de répondre à la première question. La question initiale, c'était quoi? C'était, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, quand Rabbi Shimon ben Elazar a dit que perdre quelque chose dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence, est considéré comme le perdre dans la bouche d'un loup? D'accord. Donc la première question, c'est la question initiale qu'on a posée, c'est à savoir, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence de juifs, ou dans lequel il y a une forte affluence de non-juifs? Alors on va essayer d'amener une preuve. Tashma, viens écoute. On va amener une preuve d'une braïta. Amotsemaot, bevate knesiot, bevate midrashot. Dit comme ça. La braïta, elle dit, celui qui trouve des pièces, donc de l'argent, bevate knesiot ou bevate midrashot. Dans une synagogue, d'accord. Regardez bien le terme Bate Knesiot. Bate Knesiot, ça veut dire un endroit dans lequel les gens se rassemblent. Bate Knesset, c'est quoi Bate Knesset? Bate Knesset, ça veut dire c'est une synagogue. Ou bien Bate Midrashot, un endroit dans lequel on étudie. Donc un Bate Midrash. Uverchol Makom chez Rabbi Metsu Imsham. Ainsi que dans tout endroit que Rabbi Metsu Imsham, ça veut dire qu'il y a une forte affluence. Qu'est-ce qu'on nous dit? Are Elushelo. L'objet lui appartient. Pourquoi? Mipne Shabéalim Mityashim Mehem. Parce qu'on considère que le propriétaire les abandonne. Alors rappelez-vous, c'est quoi la question qu'on avait posée? On a posé la question, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé dans un cas dans lequel il y a une majorité de juifs ou une majorité de non-juifs? Dans le cas que je viens d'amener ici. D'accord? C'est des juifs ou des non-juifs? Qu'est-ce qu'il dit monsieur Daniel? C'est des juifs. Si on parle de synagogue, c'est des juifs. D'accord? Très bien. Et qu'est-ce qu'on a vu? D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tu m'as dit que c'était des juifs. Tu m'as dit que quoi? Tu m'as dit que Arel ou Shelo, ça lui appartient. Pourquoi? Parce que Mipne Shabali Mitya Shimea, parce que tu considères que bien que c'est des juifs, le propriétaire les abandonne. Man Shamakle Dazil Batarova, qui c'est qui pense qu'on va selon la majorité? Bien que c'est pas écrit explicitement dans la Braïta, mais c'est Rabbi Shimon ben Elazar, c'est lui qui pense qu'on va selon la majorité. Shamat Mina, donc tu en déduis, Afilou Rav Israël, Nami. Tu en déduis, de cette braïta-là, que Rabbi Shimon ben Elazar, quand il a parlé même dans un cas dans lequel il y a une majorité de juifs. Donc a priori, on a répondu à notre question. Ben oui, parce que là, dans le cas qu'on a amené, tu me parles d'une synagogue, et tu me dis, une synagogue ainsi que dans tout endroit dans lequel il y a une forte affluence. Donc de là, je comprends que ce que Rabbi Shimon ben Elazar a dit, ça s'appliquera également, d'accord, dans le cas dans lequel il y a une majorité de juifs.
Non mais, d'accord, si déjà, tu es d'accord pour dire que ça s'applique dans ce cas-là, que, a fortiori, ça va s'appliquer dans les
autres. Bien sûr, à 100%.
Mais je suis pas persuadé que c'est ce qu'il a voulu dire, Rabbi Shimon ben Elazar.
Non.
Puisqu'on essaie de comprendre ce qu'il a dit.
Non, on essaye de comprendre qu'est-ce que pense Rabbi Shimon ben Elazar.
Mais peut-être qu'il est d'accord avec...
Nous, on amène une nouvelle braïta. Dans la 7 braïta, on nous dit, celui qui trouve de l'argent dans une synagogue, dans un bêta midrash, et dans tout endroit où il y a du monde, il y a une forte affluence, à Relouchelo. La seule personne qu'on connaît dans l'histoire de la Gemara, pour l'instant, qui... que pour le concept du Yehush, il suit la forte affluence, il suit le nombre de personnes qu'il y a, il suit la forte affluence, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Les autres, ils suivent pas la forte affluence. Ils se disent, moi je regarde l'objet, est-ce qu'il a un siman ou pas. Donc cette braïta peut suivre que la vie de Rabbi Shimon ben Elazar. La nouveauté qu'on a dans cette braïta, c'est qu'on a parlé d'un bet Knesset et bet Amidrash. Ça veut dire que la forte affluence est d'origine juive. Donc, a priori, on aurait répondu à une autre question.
Et où ta braïta, excuse-moi, je ne suis plus là.
L'année par Tachma, Motse bet Knesset. Voilà. Quand a priori, on aurait répondu à une autre question. D'accord. Que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé également dans un cas dans lequel la forte affluence est d'origine juive.
L'Agmara
pose la question. Alors l'Agmara va repousser cette preuve. L'Agmara va dire non. La vérité que tu viens de m'amener ici, c'est pas une preuve.
Ah.
Pourquoi? Achav Mayaskinan, ici de quoi on parle? Mimfuzarim. On parle que l'argent est éparpillé. Ça veut dire que vous avez des pièces de monnaie qui sont éparpillées. Donc puisqu'ils sont éparpillés, est-ce qu'on a un siman sur de l'argent?
Non.
On aurait pu avoir un siman avec la quantité, parce qu'on avait dit que la quantité est un siman. Oui, monsieur Daniel. Vous vous rappelez?
L'endroit où ils sont.
Monsieur Daniel.
Le nombre.
Le nombre. Le nombre est un siman.
Ouais.
Très bien. On dit que le nombre, quand il n'est pas standardisé, c'est un siman. Donc dans les billets, c'est jamais standardisé. Je peux avoir un billet de 50, un billet de 20, un billet de 20 et un billet de 100. D'accord? C'est pas standardisé. Donc ça peut être un siman. Là, de quoi on parle? En plus, je peux te dire que la braïta que tu viens de m'amener, de quelqu'un elle parle d'un cas dans lequel l'argent est éparpillé. Puisque l'argent est éparpillé, donc il n'y a pas de siman. Puisqu'il n'y a pas de siman, c'est pour ça que tu peux prendre l'argent. Vous comprenez? Mais, dans notre Mishnah, on parle d'un cas, même dans le cas dans lequel il y a un siman. Donc c'est pas le même cas.
C'est pas le même cas, bien sûr.
Très bien. J'attends, mais la Gemara, dans ce cas-là, elle pose une question et dit, Ibim Fuzarin, si tu me dis, là, il y a la question que tu as posée tout à l'heure, Ariel. Ibim Fuzarin, si tu me dis que cette braïta que tu viens de me dire, qui parlait de la synagogue, elle parle d'un cas que l'argent est éparpillé, alors pourquoi tu me dis qu'il s'agit dans un endroit dans lequel il y a beaucoup de monde, une forte affluence? Afilou en Rabbi Mitzvah Misham, même si je le trouve Rupola Enfer. Si l'argent est éparpillé, il n'y a pas de siman, donc je peux le prendre. Mais pourquoi tu me dis Rabbi Mitzvah Misham? Pourquoi tu me dis dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence? Donc c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut expliquer. Ela Leola Bitsurim. Il faut expliquer que la Braïta qu'on vient d'amener, elle parle d'un cas que l'argent est toujours attaché ensemble. Si l'argent est toujours attaché ensemble, monsieur Daniel, est-ce qu'il y a un siman? Faut oublier qu'à l'époque c'était des bourses. Est-ce qu'il y a un siman?
Oui.
Si je trouve une bourse d'argent, est-ce qu'il y a un siman?
Oui, puisqu'il est attaché ensemble. Je sais pas qu'il est éparpillé.
Quel siman on peut avoir si l'argent est attaché ensemble?
Il n'y a pas de siman.
Si, ça peut être
le nombre.
Le nombre.
Ça peut être comment est la bourse aussi.
Le nombre.
On a dit éparpillé, c'est...
Non, très bien. On peut pas dire que c'est éparpillé. Parce que si on dit que c'est éparpillé, ça veut dire qu'il n'y a pas de siman. Si on dit qu'il n'y a pas de siman, pourquoi on a besoin de lire dans la braïta qu'on parle d'un cas dans lequel il y a une forte affluence? Même s'il n'y a pas de forte affluence, si c'est éparpillé, il n'y a pas de siman, tu peux le prendre. Donc c'est pas de ça qu'on parle.
Forcément pas éparpillé.
Donc forcément, on parle d'un cas que c'est pas éparpillé. Ça veut dire qu'il y a la bourse. Une bourse, c'est un morceau de cuir. D'accord? Vous savez comment on fait une bourse? Comment on fait une bourse?
Prenez un morceau de cuir.
Prenez un morceau de cuir.
Non,
non, pas du tout. Prenez un morceau de cuir, vous mettez de l'argent dedans, vous le fermez comme ça, et vous mettez un fil autour. C'est ça. La bourse, il n'y a pas de siman. Le seul siman qu'on peut avoir ici, c'est quoi?
La quantité.
Le nombre. Très bien.
Si, la manière dont il est noué, la manière dont il est attaché.
Bon, disons qu'il n'y a pas de siman sur ça. D'accord?
Un nœud, c'est un nœud.
Non, pourquoi?
Donc, qu'est-ce qu'on te dit?
Siman,
on te dit que, en vérité, de quoi on parle? D'accord? Et là, l'Olam Bitrourine. On ne peut pas dire qu'on parle d'un cas que l'argent est éparpillé. Parce que dans ce cas-là, pourquoi tu me dis que c'est une forte affluence? Même faible affluence, s'il est éparpillé, tu peux le prendre. De quel cas on parle? On parle d'un cas que l'argent n'est pas éparpillé. L'argent est toujours attaché dans une bourse. Et alors? Donc, il y a un siman. Et pourtant, je vais quand même te répondre que la nouvelle braïta que tu m'as amenée, n'est pas le même cas. On peut rien apprendre pour Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? Parce que, Rabbi Mayaskin, a initié de quoi on parle. Toi, tu m'as dit que, d'où on a déduit que, de la deuxième braïta qu'on parlait que la majorité était des juifs. Vous vous rappelez? D'où on a compris que la deuxième braïta, parce qu'il y a écrit, Bateknesiot.
Oui.
Très bien. Écoutez bien comment on va développer ça. On va dire qu'en vérité, il est vrai qu'on a employé le terme Bate Knesiot, mais Bate Knesiot, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire un endroit dans lequel on se rassemble. On peut avoir un endroit dans lequel les non-juifs se rassemblent aussi. Donc Bate Knesiot, ça ne veut pas forcément dire une synagogue. Attends. Attention. Il faut pas oublier, d'accord, faut pas oublier que quand on amène une preuve, ça veut dire qu'il faut que la preuve ne soit incassable. Là, la preuve est cassable. Peut-être que c'est pas ce que vous voulez dire, mais la preuve, c'est pas une preuve à 100%. Très bien.
Mais regarde comment c'est marqué. Celui qui trouve des pièces dans des synagogues,
oui, mais...
dans des maisons d'études,
parce que je
dans les endroits.
On t'a traduit, je t'ai traduit synagogue pour pas te compliquer. Mais c'est marqué Bate Knessiot. Bate Knessiot en hébreu, c'est une
maison d'études.
Non, non, attends. Ah, rien. Maison d'études. On va parler de maison d'études. Pour l'instant, on a dit Bate Knessiot. Bate Knesset en hébreu, ça veut dire maison de rassemblement. Maison de rassemblement, ça peut être juif, ça peut être non juif. Ah oui. D'accord. Donc il dit, donc si on parle de non-juifs, donc il n'y a toujours pas de preuve. Notre preuve était du fait que si on parle d'une synagogue, donc c'est une preuve qu'on parle d'un cas dans lequel il y a une majorité de juifs. Là, je te dis non. Bate Knesset, ça peut être aussi des non-juifs. Alors la Gemara pose la question et dit, mais Bate Midrashot, Maïka Lemema, Bata Midrash, ça n'existe pas chez les goyim. D'accord. Un Bata Midrash. Un Bata Midrash, c'est marque déposée chez les juifs.
Oui.
Alors, que c'est une maison d'études.
Bien sûr, maison d'études juives. Alors qu'est-ce que tu me réponds sur ça?
Dans la bibliothèque.
D'accord. Oui, mais ça s'appelle pas un Bet Midrash.
Non, mais...
Bet Midrash, non. Bet Knesset, c'est-à-dire maison dans laquelle on se rassemble. Bet Midrash, ça veut dire un endroit dans lequel on fait du drash. D'accord. Ça, c'est une marque déposée chez les juifs. Donc ça, c'est obligé que c'est les juifs. C'est la Gemara qui pose la question, dit, Bet Midrashot, Baikal et Memar. Tu peux me répondre ça, que c'est des non-juifs sur Bet Knesset. Mais qu'est-ce que tu me réponds sur Bet Midrash? Réponds la Gemara. Et là, en vérité, regardez la réponse, on va apprendre de là quelque chose d'intéressant. Bet Midrashot Didan. On parle d'un Bet Midrash de juifs, mais seulement des Yad Vebeu Knaani, il y a des Cananéens qui sont assis dans ce Bet Midrash. Alors pourquoi ils seraient assis dans ce Bet Midrash? Alors écoutez bien. Les commentaires expliquent comme ça. Les commentaires expliquent qu'à l'époque, le Bet Midrash se trouvait en dehors de la ville. D'accord? Et puisqu'il se trouvait en dehors de la ville, c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de voleurs qui passent, et on ne sait pas qui peut passer. Donc, on prenait des Cananéens, des gardes. Aujourd'hui, je redis des blacks. D'accord? Des blacks qui sont là pour garder. Aujourd'hui, on aurait pu dire aussi des hommes de ménage pour nettoyer. C'est eux qui étaient là pour garder l'endroit. Donc, même si on parle d'un Beta Midrash, on parle d'un Beta Midrash dans lequel, qui est en dehors de la ville, qui est ce qui a été la majorité des cas à l'époque, même aujourd'hui. Dans tous les Beta Midrash que vous verrez, il y a toujours des noirs qui sont là pour nettoyer, pour garder, oui. D'accord? Très bien. Et alors? D'accord? Donc dans ce cas-là, comme explique le commentaire, bien que la majorité, ça c'est intéressant ce qu'explique le commentaire, bien que la majorité des passants sont juifs ou non juifs dans ce Bata Midrash, ils sont juifs. Mais seulement les passants, quand ils viennent pour étudier. Donc ils font pas forcément attention à ce qu'il y a par terre, au portefeuille qui est par terre, ou à ce qu'il y a par terre. Alors que les non-juifs, eux, ils sont là pour garder, ils sont là pour nettoyer. Donc ils font attention à chaque petit truc. Donc, statistiquement, ils ont plus de chances de retrouver un objet que la majorité des gens qui se trouvent ici. Vous suivez? Ah oui, c'est logique. Parce que leur boulot est de faire attention aux petits détails. Ils sont là pour nettoyer, ils sont là pour ça. Ils sont là pour nettoyer, ils sont là pour garder. On a vraiment l'exemple dans un Bet Midrash dans lequel, moi je sais dans toutes les chivotes que j'étais, la majorité des hommes de ménage, etc., c'est non juifs. D'accord? Partout. Partout, c'est comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est eux qui travaillent sans. Ils peuvent travailler le Shabbat, etc. Ça enlève beaucoup de problèmes. Ouais. Donc on dit comme ça. Donc encore une fois, est-ce qu'on peut apprendre de notre Braïta que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé. La première question qu'on avait posée, c'est est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé même dans un cas dans lequel il y a une majorité de juifs? On a essayé d'amener une preuve, on a montré que c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que dans un Bet Midrash, on peut dire que pourquoi Rabbi Shimon ben Elazar a dit que tu peux le prendre? Pourquoi Rabbi Shimon ben Elazar a dit que tu peux le prendre? Parce que c'est un endroit dans lequel, statistiquement, celui qui va le retrouver, ça sera certainement un goy. Donc c'est toujours considéré comme un goy qui va le retrouver. Donc on n'a toujours pas notre réponse. Qu'est-ce qui se passe si on a une place du marché dans laquelle la majorité des gens qui passent sont des juifs et que statistiquement, c'est un juif qui a la chance de retrouver? Est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé sur ça ou il n'a pas parlé sur ça?
Dans ce cas, tu peux dire que ça marche autant pour les juifs que pour les non-juifs, parce qu'il y a autant, quoi. Même si c'est les non-juifs qui peuvent, quoi, qui se ramassent.
Non, ça, le commentaire explique que ici, le non-juif a plus de chances de le retrouver que le juif, parce que c'est son boulot.
Oui, mais en même temps, il est moins nombreux.
Oui, justement. Mais c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que comme c'est son boulot, les gens qui viennent à la synagogue pour étudier, ils viennent pour étudier, ils ont pas la tête à ça, à rechercher ce qu'il y a par terre. Ou bien à voir le petit sac qui est posé dans un coin. C'est comme je rentre à la synagogue. Imaginez-vous, je rentre à la synagogue. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un sac qui était posé dans un coin? Tu te rends pas compte, parce que toi t'es là pour étudier, t'es là pour prier. Tu te rends pas compte. Alors que l'homme de ménage, la femme de ménage, elle est capable de me dire exactement où était posé chaque sac.
Dans une synagogue, c'est un endroit où t'as les livres, etc. Alors tu sais que par exemple, faut pas marcher sur un livre, etc. Donc tu fais vachement attention.
Très bien.
Donc tu regardes.
Pas d'un livre par terre.
Justement, tu là où tu marches.
Imagine-toi que je trouve un sac dans une synagogue. D'accord ? Statistiquement, même si il y a plus de juifs qui viennent dans une synagogue, mais statistiquement, comme les hommes de ménage ont plus de chances de retrouver ce sac que toi. Donc je dis, essaye de te rappeler maintenant, ferme les yeux, essaye de te rappeler où tu as vu dans la. Essaye de te rappeler qu'il y avait un carton ici à ta droite. Tu t'en rappelles ?
Non.
Tu t'en rappelles pas. Je sais pas si tu t'es rendu compte qu'il y avait un carton ici. La femme de ménage, c'est son boulot. Dès qu'elle est rentrée dans la salle, elle sait qu'il y a un carton ici. C'est son boulot. Elle est là pour ça, elle est là pour nettoyer. Tu comprends ?
Donc ça répond pas à la question.
Donc ça répond toujours pas à la question.
On n'a pas la question, on n'a pas la réponse.
Pourquoi on n'a pas la réponse ? Puisque Bate Knesset et Bate Midrashot, on a expliqué que. D'ailleurs, la Gemara va dire tout de suite, comme je dis ici, Achadatit Lachin. Maintenant qu'on est venu à ça, on a dit que en vérité, on peut être dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence de juifs, mais qu'il y a plus de chances à un goy que qu'un goy le retrouve. Ouais. Donc. Bate Knesset Nami, dit un des deux Knanim. On pourrait expliquer que Bate Knesset, c'est pas un Bate Knesset de Goïm, c'est un Bate Knesset de Juif, mais le même concept, mais qui est nettoyé ou gardé par des non-juifs. Donc on n'est pas obligé de tirer par les cheveux comme avant, de dire que Bate Knesset, c'est une maison dans laquelle se rassemblent des Goïm. On peut dire que c'est un Bate Knesset, pas shoot, un Bate Knesset, comme ici. Seulement quoi ? C'est un endroit qui a forte affluence juive, mais le Goïm a plus de chances de le retrouver. Donc est-ce qu'on a répondu à notre question, monsieur Daniel ?
Non.
On n'a pas répondu à notre question. D'accord ? On n'a pas répondu à notre question, puisqu'on n'a toujours pas retrouvé de preuves, on n'a toujours pas trouvé de Mishnah ou de Braïta, dans lesquels on parle d'un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs, et dans lequel on nous dit que, Aré Elouchelo, quand il y a un Siman, Aré Elouchelo, ça t'appartient. Très bien. Marais continue, elle amène une autre preuve. D'accord ? Une autre preuve qui vient d'une Mishnah dans le traité Marchirin. Tashma, viens, écoute. D'accord ? Matsaba, Aveda. Si une personne a trouvé dans une ville, Aveda, une perte. Je trouve une perte dans une ville. Imrov Israël Chayav Leachiz. Si la majorité des gens de la ville, donc la majorité des passants, sont des juifs, Chayav Leachiz, j'ai l'obligation de proclamer. Imrov Knaanim Eno Chayav Leachiz. Si la majorité des habitants de la ville est des non-juifs, comme la ville de Paris par exemple, qu'est-ce qu'on te dit ? Je trouve dans la rue. Et non chayav l'achi, j'ai pas d'obligation de proclamer. Man shamatle damar aslenan batarova. Qui a dit que aslenan batarova qu'on va selon la majorité ? C'est qui la seule personne qui a dit qu'on va selon la majorité dans l'endroit dans lequel on se trouve ? C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Donc shamat mina. De là, j'apprendrai que qui kama Rabbi Shimon ben Elazar ? Que quand Rabbi Shimon ben Elazar a dit que on a le droit de prendre. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Elazar ? On a le droit de prendre une perte, que perdre quelque chose dans un endroit à forte affluence, c'est considéré comme si on l'avait perdu dans la bouche du loup. Il a parlé seulement, Bemakov, Berov Knaanim, dans un endroit dans lequel il y a une majorité de Knaanim, de Cananéens, de non-juifs. Aval, Rov Israël, mais c'est une majorité de juifs, non. Vous avez compris ce qu'on a mis dans cette Mishnah ?
Non.
Qu'est-ce qu'on a mis dans cette Mishnah ? Cette Mishnah, on a dit, si j'ai trouvé la perte dans un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs, il faut proclamer. Si j'ai trouvé la perte dans une ville dans laquelle la majorité est non-juive, qu'est-ce qu'on te dit ? J'ai pas l'obligation de proclamer. On te dit, peut-être on peut dire que cette Mishnah va comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et si cette Mishnah va comme Rabbi Shimon ben Elazar, on a vu ici que Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il a dit ? Si la majorité sont des juifs, est-ce qu'il faut proclamer ou est-ce que je peux le garder ?
Il faut
proclamer. Donc, on aurait répondu à notre première question. C'est la première question qu'on a posée. Est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé dans un cas dans lequel il y a des non-juifs, ou est-ce qu'il a parlé également dans un endroit dans lequel également il y a des juifs ? D'accord ? D'après cette braïta, ça voudrait dire qu'il a parlé que dans un cas dans lequel il y a des juifs. Il y a des non-juifs, pardon. Vous me suivez ?
Moi, on va ramener quelque chose.
Là, on va pas ramener quelque chose, on va expliquer autrement. D'accord ? Ah oui, on commence à s'habituer. Bah oui, il faut toujours... Il faut voir le problème arriver. Agmara répond, elle dit... Amani, je vais te dire que cette Mishnah, elle pense comme qui ? Cette Mishnah, elle pense comme Rabbanan. Ah. Cette Mishnah, elle pense pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, elle pense comme Rabbanan. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'ici ? Dans ce cas-là, Tipshet Mina, dans ce cas-là, on va répondre à une autre question qu'on avait posée. Vous vous rappelez la question qu'on avait posée ? Une des questions qu'on avait posées, c'est même si tu vas me dire que Rabbi Shimon ben Elazar dit, même si tu vas me dire que Rabbi Shimon ben Elazar dit que c'est même dans un endroit dans lequel il y a une majorité de... Je vous rappelle les questions. Allez, messieurs, regardez-moi, s'il vous plaît. On a posé une première question, d'accord ? C'est quoi la première question qu'on avait posée? Est-ce qu'on va dire que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé dans un cas dans lequel il y a une majorité de non-juifs, ou même si dans un cas dans lequel il y a une majorité de juifs? D'accord? On a posé la question, c'est la première question qu'on a posée. Ensuite, deuxième question qu'on a posée, c'est quoi la deuxième question qu'on a posée? Est-ce que Chachamim sont en marloquette avec lui ou pas? Deuxième question qu'on a posée. Troisième question qu'on a posée. Même si tu veux dire que Chachamim sont en marloquette, est-ce qu'ils sont en marloquette sur les deux cas ou sur un seul des deux cas? Quatrième question qu'on a posée, est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar ou pas? Et cinquième question qu'on a posée, si la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, est-ce qu'elle est dans les deux cas ou dans un seul des deux cas? D'accord? Ou dans aucun des deux cas? Bon, très bien. Alors, écoutez bien ce qu'on va dire ici maintenant. Qu'est-ce qu'on va te dire ici? On va te dire que la Mishnah qu'on vient d'amener ici, qui a dit que si une majorité est de juifs, il faut proclamer, si une majorité de juifs, il faut proclamer, et si la majorité de non-juifs, il ne faut pas proclamer, c'est la vérité de qui elle parle. Cette braïta, elle va comme Chachamim. Ça voudrait dire que Chachamim, qu'est-ce qu'il pense? À quelle question on a répondu maintenant? Allez messieurs, on réfléchit.
Il a répondu à la question qui concernait les juifs et non-juifs.
La première.
Non, on n'a pas répondu à la première question. Parce que la première question, c'était, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar pense que c'est juif ou non-juif? On t'a dit que c'est la Mishnah qu'on vient d'amener, c'est pas Rabbi Shimon ben Elazar, c'est Chachamim. Donc la première question, on n'a pas répondu, mais on a répondu à d'autres questions. Tu m'as posé la question, est-ce que Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Shimon ben Elazar? Et s'ils sont en marloquette, ils sont en marloquette sur quelqu'un. D'accord? Qu'est-ce qu'on a répondu ici? On aurait répondu que ils sont en marloquette avec Rabbi Shimon ben Elazar, mais que sur un cas. Il y a un cas sur lequel ils sont d'accord. Ils seraient d'accord avec lui dans le cas dans lequel il y a une majorité de non-juifs. Ça va? On suit, M. Daniel?
Pas dans les deux cas, mais dans quel cas?
Vous avez perdu? Bon. Non, je vais m'arrêter dans pas longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de chazara à faire. Donc on dit comme ça, type shot mina.
Pourquoi la chose on ne peut pas la retenir ça me... Dès qu'on l'entend, ça c'est.
Parce qu'il y a beaucoup de détails là. Là il y a une logique de Guémara qu'il faut suivre. Il y a un fil. Dès qu'on perd le fil,
chose,
c'est fini.
Ça s'efface, la chose d'avant elle s'efface. Ouais, c'est simple.
Nardoise.
Tac.
Donc on dit comme ça. Type shot mina des modes où les rabbins les Rabbi Shimon ben Elazar. Donc dans ce cas-là, j'apprendrai que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar, Berov Knaanim. Donc j'aurais répondu à la troisième et à la quatrième question. Tu m'as demandé est-ce que Chachamim sont en marloquette? Je te dis oui, ils sont en marloquette. Est-ce qu'ils sont en marloquette sur les deux cas? Je te réponds non, ils sont pas en marloquette sur les deux cas. Ils sont en marloquette que sur le cas dans lequel il y a une majorité de juifs. La Gemara dit non. En vérité, non, ils sont en marloquette que dans le cas dans lequel il y a une majorité de juifs. Dans le cas dans lequel il y a une majorité de juifs, Rabbi Shimon ben Elazar dirait qu'il ne faut pas rendre, d'accord? Et Chachamim dirait qu'il faut rendre. La Gemara a dit non. Et là seulement, les Olam, Rabbi Shimon ben Elazar. En vérité, on va dire que cette Mishnah va selon Rabbi Shimon ben Elazar. Et pas selon Chachamim. Seulement quoi? Va filou berov Israël nami. Et Rabbi Shimon ben Elazar, en vérité, il pense que même si c'est un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs, il faut rendre. Mais cette Mishnah que tu m'as amenée n'est toujours pas une preuve. Pourquoi? Hein, il faut chercher le problème, M. Daniel, maintenant. C'est quoi le problème? Ah, Rabbi Mayaskinan, ici de quoi on parle? Donc on est à la fin de la page 24 à 4. Ici de quoi on parle? 24 à 4, non?
Déjà, t'es arrivé à 4 à 4, non?
Si.
Oui.
Ouais, mais t'es passé en 2 secondes, là, de...
Ah non, ça dit 2. Ah, Rabbi Mayaskinan, ça fait 3-4 heures qu'on étudie.
Non, on était là, excuse-moi. J'ai fait un trou, j'ai perdu la majorité.
Voilà, ça va dans ce sens-là.
Voilà.
Donc maintenant c'est ici.
Tu m'as dit en bas de la page à 4. Non, en haut.
Enfin, oui. Ah, Chabamayaskinan, ici de quoi on parle? On parle d'un cas ici. Écoutez bien ce que dit la Gemara. Betamoun. On parle que je trouve un objet. Écoutez bien comme ça. On te dit comme ça. En vérité, on va dire que Rabbi Shimon ben Elazar, la Mishnah va comme Rabbi Shimon ben Elazar, et c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que c'est un cas particulier qui ne peut pas ressembler à un autre cas. Pourquoi? Parce que ici on parle que c'est un objet qui est caché. Vous êtes dans la place du marché, d'accord? Et vous trouvez un objet qui est caché. Et alors, qu'est-ce que ça change? Comme c'est un objet qui est caché, ça prouve que l'objet n'a pas été perdu. Mais il a été posé par... Il a été posé par une personne. Et là, on va dire que c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Elazar a fait la différence entre un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs et une majorité de non-juifs. Si c'est une majorité de juifs, je considère que si une personne a caché un objet, il compte le retrouver, parce que dans sa tête, les gens sont honnêtes. Ici, c'est un endroit dans lequel c'est une majorité de non-juifs. Une personne qui l'a caché, il sait qu'il ne compte pas le retrouver parce qu'un goy, dès qu'il le trouve, caché ou pas caché, il le prendra.
Et comment on sait que c'est un objet caché?
Ah, on peut dire que c'est un objet caché. Donc, puisqu'on peut dire que c'est un objet caché, donc j'ai pas de preuve pour savoir qu'est-ce que penserait Rabbi Shimon ben Elazar dans un cas standard quand je trouve un objet qui a un siman sur la place du marché. Parce que je peux expliquer que la Mishnah, comme vient de dire ici, elle parle d'un cas particulier. C'est la logique Gemara. La logique Gemara toujours, c'est d'expliquer que la preuve que tu m'as amenée parle d'un cas particulier. Donc si elle parle d'un cas particulier, il n'y a pas de preuve. D'accord ? Notre cas, c'est un cas standard. Ce cas-là est un cas particulier. Pourquoi c'est un cas particulier ? Parce qu'on parle d'un cas où l'objet est caché.
D'où tu sais que c'est un cas particulier ?
On peut dire que c'est un cas particulier.
Pourquoi ?
Parce que... Est-ce qu'on peut expliquer cette Mishnah-là en disant que c'est que l'objet est caché?
Mais pourquoi l'objet est caché?
C'est quoi pourquoi l'objet est caché?
Pourquoi tu parles d'un objet caché?
On va t'expliquer que la Mishnah qu'on vient d'amener ici du traité Marchirin, qui dit que si on a trouvé une paire, si c'est dans un endroit dans lequel la majorité est de juifs, il faut proclamer, sinon on ne peut pas proclamer.
Oui.
La Mishnah n'a pas précisé de quel cas elle parlait. Est-ce que l'objet est caché? Est-ce que l'objet n'est pas caché? Donc moi je vais t'expliquer que cette Mishnah parle, elle peut parler d'un cas que l'objet est caché. Elle peut parler. Donc, puisqu'elle peut parler d'un cas que l'objet est caché, donc j'ai pas de preuve.
Et si elle parle pas de l'objet caché?
Peut-être. Si elle parle pas, ça serait une preuve. Le concept...
Alors à ce moment-là, je te dis la même chose, là.
Oui. La question se posera toujours. On veut savoir que pense Rabbi Shimon ben Elazar.
Ça veut dire caché?
Alors, caché, ça veut dire caché. Caché quelque part.
Ah, c'est la personne qui l'a perdu qui l'a caché?
Non.
Ou la personne qui l'a trouvé?
Non. Moi, je trouve un objet, la personne qui l'a trouvé trouve l'objet dans un endroit caché.
La personne qui l'a trouvé trouve...
Je vais sur la place du marché. D'accord. Dans la place du marché, on peut trouver
le clou.
Je vais sur la place du marché. Je vous rappelle encore une fois la logique Gemara. La logique Gemara est comme ça. On pose une question. D'accord ? Je pose une question. Bon, par exemple, le cas d'ici qu'on a posé. Est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar parle d'un cas dans lequel il y a une majorité de non-juifs, ou même s'il y a une majorité de juifs ? J'amène une preuve. Quand j'amène une preuve, il faut que la preuve que j'amène, il faut que je sois capable d'expliquer que la seule manière d'expliquer cette Mishnah-là, c'est le même cas qu'ici. Donc si c'est le même cas qu'ici, il y a une preuve. Si je trouve une manière de dire que le cas B que j'ai amené est un cas, je peux dire que c'est un cas, c'est un autre cas, il n'y a plus de preuves. Même si je peux dire aussi que c'est le même cas. Mais le concept d'une preuve dans la Gemara, c'est quand on est sûr à 100%. Sûr à 100% que c'est le même cas. S'il y a une autre manière d'expliquer, je te dis, s'il y a une autre manière d'expliquer, tu n'as aucune preuve, il n'y a pas de preuve. Le concept d'une preuve, c'est que tu es obligé d'expliquer comme ça. Donc là, je te dis, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, qu'est-ce qui se passe si je trouve sur la place du marché un objet? Tu m'as voulu m'amener une preuve du traité Marchirin. Tu m'as dit, la question qu'on a posée, c'est, est-ce que quand je trouve un objet dans la place du marché, est-ce qu'on parle que dans un marché qui est d'égoïs, ou même si c'est un marché qui a une majorité de juifs? Tu m'as amené une preuve du traité Marchirin. Je te dis non. Cette preuve du traité Marchirin, je vais te répondre, cette Mishnah-là, qu'elle parle d'un cas dans lequel l'objet est caché. Et alors si l'objet est caché, là elle est ce que je vais vous expliquer. C'est autre chose, c'est carrément c'est un autre cas, c'est pas du tout le même cas. Je vais sur la place du marché, il y a des cachettes, un peu partout, on peut trouver des cachettes. Et je trouve un objet caché dans une cachette. D'accord? Très bien. C'est quoi le problème? C'est que s'il est dans une cachette, ça veut dire qu'il n'a pas été perdu. Qui dit cachette, dit qu'il n'a pas été perdu. Il y a quelqu'un qui l'a posé. Vous suivez?
Donc on parle pas du même cas, on parle d'un objet perdu.
Seconde.
D'un objet caché, c'est pas un objet perdu.
Mais moi je sais pas s'il est perdu.
Mais si tu trouves une cachette.
Très bien. Alors qu'est-ce qu'on te dit ici? C'est pour ça que je te dis ici. C'est pour ça qu'on te répond, on te dit que je peux expliquer que le cas B que tu m'as amené ne parle même pas d'une perte. Parce que c'est pas écrit qu'on peut dire que c'est pas une perte. Toi tu crois que c'est perdu, mais c'est pas perdu, c'est caché. De quoi on parle? On parle que l'objet est caché. Alors pourquoi il y a la différence entre s'il y a une majorité de juifs et majorité de non-juifs? Très simple. Parce que quand il y a une majorité de juifs, celui qui a caché son objet, il compte le retrouver. Parce que je dis, les gens sont honnêtes, ils voient que c'est caché, ils vont pas le prendre. Celui qui a perdu son objet dans un endroit dans lequel il y a une majorité de non-juifs, même s'il a caché, il va se rendre compte que caché ou pas caché, tu ne retrouveras pas ton objet. Parce qu'un goy qui trouve un objet, même s'il est caché, il le prend.
En contradiction avec ce qu'on a dit l'autre jour, on a dit que 80% des voleurs c'était des juifs.
Non, c'est trop chiant. On parle pas d'un voleur là. C'est pas un voleur.
Mais c'est du vol.
Non, c'est pas du vol.
On a dit que dans la majorité des juifs, il y avait aussi des non-juifs et que si ça tombait entre leurs
J'ai pas
mains,
dit que la majorité.
Ah ouais.
Attention, attendez. Excusez-moi. J'ai pas dit que la majorité des juifs sont des voleurs.
Ah, qu'est-ce que ça dit alors?
J'ai dit que la majorité des voleurs sont des juifs.
Ah là, alors voilà, c'est ça la question.
Chose. C'est pas la même chose.
Attends.
La majorité des voleurs sont des juifs. C'est pas du tout la même chose.
La majorité des voleurs sont des juifs.
C'est pas la même chose.
Si, parce qu'il y a combien moins de juifs que de...
Non.
Les proportions sont pas pareilles.
Oui, mais c'est pas la même chose. Ça veut pas dire que dans un marché qu'il y a une majorité de juifs, il y aura un voleur.
Mais c'est ton truc là, tu te renfonces là. Parce que si tu dis ça,
Pas du
c'est
tout.
Encore pire.
Ah, pas du tout.
Ah, étant donné que le nombre de juifs par rapport au nombre de juifs est inférieur,
peut-être.
Tu dis que la majorité des voleurs sont des juifs, c'est-à-dire que pratiquement tous les voleurs, c'est que des juifs. C'est... Or, on voit bien que c'est pas le cas.
Non. Dans le monde, la majorité des voleurs sont des juifs.
C'est pas un voleur.
Bon, il faut comprendre cette gamin, parce que dans les
faits, on ne voit pas comprendre. Ah, faut la comprendre là. Hein. Le soleil et la terre, faut pas la comprendre.
Non, c'est comme toutes ça. De toutes les façons, dans les faits aujourd'hui, on voit que c'est pas comme ça. On voit que c'est pas comme ça.
Hein. Non, mais d'accord.
Bon. À l'époque, la Gemara, en tout cas, la majorité des gros coups, ils étaient fait
pas. Non, c'est pour ça que j'ai par rapport à l'autre exemple.
Oui.
C'est pas évident, écoute, que si jamais quelqu'un y trouve un objet qui est caché,
ouais.
Et qu'il n'est pas juste, c'est pas évident.
Donc toi, tu me poses la question, tu dis a priori, s'il y a des juifs, c'est plus grave que des non-juifs.
Ouais.
C'est pire.
C'est pire.
On verra après.
Peut-être c'est pire.
C'est pire. C'est peut-être pire.
Non, mais peut-être c'est pire. Donc si peut-être c'est pire, ça marche pas non plus.
On va voir après. D'accord. Ouais, c'est une bonne question ce qu'il pose. Mais la Gemara va pas utiliser l'argument que la majorité des voleurs sont des juifs. Elle va utiliser un autre argument, mais dans le même sens, que dire que ça peut être pire. Bon. Alors la Gemara continue, elle dit, je finis avec ça. Elle dit, on parle dans le cas que l'objet est caché. Donc si l'objet est caché, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Si l'objet est caché, vous me suivez?
Oui.
Donc, on parle même plus d'une perte. On parle d'un objet caché, c'est autre chose. Donc, on n'a toujours pas de preuve. Parce que nous, on cherche pour un cas d'une perte. Gemara elle pose la question, elle dit, mais une question très simple que j'attendais que vous me posiez. I, betamoun, si tu me dis qu'on parle que l'objet est caché, mayavite gabé, qu'est-ce qu'il fait chez toi l'objet? Tu m'as dit, celui qui trouve un objet, il le prend, alors est-ce qu'il doit le proclamer ou pas? C'est ça la question qu'on a posée. Je dis, mais je comprends pas. Si tu trouves un objet caché, qu'est-ce que l'objet fait dans ma main? Moi, je prends un objet, je trouve un objet caché, je viens voir le rav, je dis, voilà, monsieur le rabbin, j'ai trouvé un objet caché. Est-ce que je dois proclamer ou pas? Quelle première chose vous dit, monsieur le rabbin? Il lui dit, mais monsieur, pourquoi vous l'avez pris? Qu'est-ce que vous êtes passé par là? Il est caché, laissez-le là-bas. C'est ça la question. On a dit, est-ce qu'il faut proclamer ou pas? Mais qui t'a parlé de proclamer maintenant? Quand tu dis proclamer, c'est-à-dire que tu viens chez le rav, tu lui dis, est-ce que je proclame ou pas? Mais qui t'a demandé de le prendre? Laisse-le! C'est quoi cette histoire? Véatnan, voilà s'enseigner. Matsakli Bahashpa. Si une personne a trouvé un ustensile Bahashpa dans une poubelle. D'accord? Mechoussé. Mais il était caché. Alors faut savoir que les poubelles de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui les sacs en plastique. Les poubelles de l'époque, c'était des gros cajots en bois. D'accord? Donc, si je vois un objet, je trouve un objet caché au fin fond d'une poubelle. Mais dans un rond-coin comme ça, que ça se voit que la personne l'a posé. Il n'est pas tombé de lui-même. Qu'est-ce que dit la Mishnah? D'accord? Le Egabo, tu touches pas l'objet. C'est pas que tu prends l'objet et tu proclames. Tu touches pas. Pourquoi? Parce que les propriétaires l'ont laissé. Par contre, mégoulé, si je trouve un objet posé sur une poubelle, mais il est dévoilé, il n'est pas caché, d'accord? C'est-à-dire, ça se voit que l'objet n'est pas tombé de quelqu'un, les poubelles étaient hautes. Ça se voit qu'il n'est pas tombé de quelqu'un. Bah ouais. Ça peut pas tomber sur une poubelle. Imaginez, vous avez une poubelle verte, voilà, je trouve un portefeuille sur une poubelle verte. L'objet n'est pas tombé, il n'est pas tombé là-bas. Il y a quelqu'un qui l'a posé. Qu'est-ce qu'on te dit? Mais il est dévoilé. Il est dévoilé, c'est-à-dire qu'il n'est pas caché. Notel ou Machiz, là je prends et je proclame. D'accord? Donc la Gemara pose la question et dit, elle me dit, mais je comprends pas. Si tu me dis qu'on parle que l'objet est caché, et je finis avec ça, tu me dis qu'on parle que l'objet est caché, alors dans ce cas-là, qui t'a permis de le prendre? Que tu dis, est-ce que je proclame ou pas? Mais laisse-le!
Non, c'est pas l'objet permis, d'accord? C'est un objet caché.
Si c'est un objet caché, qui t'a permis de le prendre? Laisse-le! Répond la Gemara, il dit qu'il est amar à papa, comme Rav Papa a dit. En vérité, c'était une poubelle en bois. Chenasuyalipanot, ça veut dire que c'est une poubelle qui n'a pas l'habitude d'être enlevée. C'est pas une poubelle amovible, c'est une poubelle qui reste sur place. D'accord? Seulement, on la vide de temps en temps. Donc le propriétaire, quand il a caché son objet dans la poubelle, bien couvert, j'espère, quand il a caché son objet dans la poubelle, il s'est dit, je reviendrai quelques jours plus tard et je le reprends. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Venim la chale alefanota, le propriétaire de la poubelle, bien qu'en général, il laisse la poubelle pendant des mois, d'accord, et bon, c'est-à-dire le cajot en bois, il le laisse pendant des mois. Un jour maintenant, le propriétaire de la poubelle, il dit, je vide la poubelle, j'enlève, je casse cette poubelle-là. Maintenant, il n'a pas l'habitude, d'habitude, elle est toujours là, cette poubelle. Maintenant, lui, il vient, il la casse. Et moi, je viens, je suis un spectateur. Je vois le propriétaire de la poubelle en train de casser. Et quand je vois casser la poubelle, je vois que c'était énorme, la poubelle, à l'époque. Je vois qu'il y a un objet qui est posé, qui est caché. Qu'est-ce que je fais? C'est autre chose. Là oui, là je suis obligé de le prendre, parce que je lui dis je le prends pas, va savoir qui va le prendre. Ouais. C'est-à-dire comme ça, on a posé la question, on a dit mais si tu me dis que c'est caché, alors pourquoi tu l'as pris? On dit voilà pourquoi je l'ai pris parce que le propriétaire qui peut être goy est en train de casser sa poubelle. ou juif même. Donc moi je vois ça, je dis attends, je prends l'objet, je me proclame pas pour le prendre. Je dis mais il va partir, il va partir. D'accord ? A Hanami, Ashpash. T'as raison. Si, il était caché dans la poubelle.
Il était dans la poubelle.
Voilà, il était caché dans un recoin, mais quand le propriétaire il casse sa poubelle, eh ben tu oui, trouves.
Après,
voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une perte. C'est ça qu'on appelle ça une perte.
Parce qu'on a cassé la cachette.
Comme on a cassé la cachette, c'est devenu une perte. Parce que l'objet est en train de se perdre. L'objet est en train de se perdre.
Oui, mais il parle dans un cas particulier.
Et c'est pour ça que, oui. Mais on peut expliquer qu'on parle de ça. Donc on n'a toujours pas de preuve. On peut expliquer que la Mishnah qu'on a dit ici, c'est la Mishnah, elle parle d'un cas particulier. Elle parle d'un cas dans lequel l'objet n'est pas perdu, mais c'est une cachette qui est en train de se perdre. C'est ça en vérité. Donc, on n'a toujours pas de preuve pour Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce qu'on a répondu à notre question ? Une question initiale ? Toujours pas. D'accord ?
En fait, la Guémara essaye d'élaborer toutes les hypothèses possibles pour avoir sa preuve.
Oui. Pour l'instant, elle n'a pas.
Tant que ça ne fonctionne pas, c'est...
Ouais.
Bon, pourquoi ? Parce que, par exemple, l'autre jour, on disait que s'il y avait un objet qui était...
Mais peut-être on va faire juste trois lignes, parce que c'est la fin. D'accord ? Tournez la page 24B1. Vei Baitema, juste trois lignes. Si tu veux, je te réponds. Léolam Rabanan. En vérité, cette Mishnah-là, elle pense comme Rachamim. Mi Katane En Shelo. Eino Chayav Lachis Katane. Donc il y a Niyach. Veya Niyach. Veya Te Israël. Veya Vesimana. Veshakil. En vérité, qu'est-ce qu'on te dit ? Ça, c'est une deuxième réponse, encore une fois. C'est quoi la deuxième réponse ? On te dit que. On va regarder la Mishnah qu'on avait dit. On vient de dire à la fin de la page ici. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit si une personne a trouvé une perte, si la majorité est des juifs, il faut proclamer. Si la majorité est de non-juifs, tu n'es pas obligé de proclamer. On va voir les avocats qui sont ici. Tu n'es pas obligé de proclamer. Est-ce que ça veut dire que tu peux le prendre ?
Je sais.
Tu n'es pas obligé de proclamer. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Tu peux le prendre.
Je vais le garder.
Tu n'es pas obligé de proclamer.
Est-ce que ça veut dire que tu peux le prendre ? D'habitude, on dit arelu shelo. Là, on n'a pas dit arelu shelo. D'habitude, où on dit tu dois le proclamer, où on dit ça t'appartient. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on t'a dit si la majorité est des non-juifs, tu n'es pas obligé de proclamer.
C'est d'après son libre choix.
Ça veut dire quoi ? D'accord ?
Tu peux le prendre.
Ça veut dire de le laisser.
Oui. Pourquoi ?
Comme on te dit tu n'es pas obligé de le proclamer, ça veut dire tu peux le laisser. Donc on peut expliquer comme ça. Bon, ça je vous laisse voir dans la chazara.
Tu peux le laisser, oui, d'accord.
D'accord ? Donc, on n'a toujours pas répondu à notre question. Qu'est-ce qui se passe si je trouve sur la place du marché ? D'accord ? Place du marché. Peu importe. Donc, est-ce que si je trouve sur la place du marché un objet, on sait que Rabbi Shimon ben Elazar a dit que je peux le prendre, même s'il a un siman, mais on ne sait pas est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé dans un cas dans lequel il y a des non-juifs, la majorité des passants sont des non-juifs, ou la majorité des passants ne sont pas... ou même si c'est un cas pardon, où la majorité des passants sont juifs. Est-ce qu'on a répondu à la question ? On n'a pas répondu à la question. Donc, bien entendu, on n'a pas répondu aussi à toutes les autres questions qu'on a posées. Est-ce que Rami s'en marche locate avec lui ? Est-ce que la halakha est comme Rami ? Est-ce que la halakha... On n'a pas répondu à toutes ces questions. Mais Bezrat Hashem, on aura une réponse la semaine prochaine. A priori, il y a quoi ? La semaine prochaine, alors je vais vous demander.
En principe, je suis là.
Toi, tu es là ? Très bien. Alors, parce que déjà, cette semaine, il y en a plusieurs qui devaient aller faire les courses.
Moi, je ne demande pas.
Je vais voir en fonction de mon ménage de papa.
Ah, donc vous pensez pas être là ?
Je trouve plus le temps de...
Voilà.